Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Soyez les bienvenus et bonjour à toutes et tous en ce premier dimanche de mois de juillet. Mois où les vacances vont débuter bientôt pour les plus chanceux. Quant aux autres, ils se réjouissent. Cette attente sera bientôt récompensée. Coin de ciel vous propose aujourd'hui, et le 10 juillet, une émission en deux parties. Récemment, Corinne Gausauer-Perrault a écrit un livre aux éditions Prisme Saint-Augustin, une nouveauté pour traiter des problèmes de société. Ce livre s'intitule « Au creux de l'être, vivre sans enfant ». L'auteur aborde un sujet plein de souffrance pour de plus en plus de couples. Sujet tabou, trop longtemps tu, par honte. Que répondre à la question « Alors, ce bébé, c'est pour quand ?» Joignant le geste à la parole, les yeux se promènent furtivement pour vérifier la rondeur du ventre de la jeune femme qui se tient là, muette. Avant que commencions l'interview avec Corinne, je vous propose un tout petit extrait des chants interprétés par les Padres. Regarde l'étoile. Marie a aussi été une mère et elle est pour chacun d'entre nous, avec ou sans enfant, notre mère à tous.
Si les flots de l'ambition.
Corinne, bonjour.
Bonjour.
Au creux de l'être, vivre sans enfant, tel est le titre de votre ouvrage récemment publié aux éditions Prisme Saint-Augustin. Ces éditions sont une nouveauté chez Saint-Augustin pour traiter des problèmes de société. Ce livre traite d'un sujet très délicat, voire même un peu ou beaucoup tabou. Alors, pourquoi l'avoir publié ?
Justement, pour en parler, pour parler des choses qui sont délicates, difficiles, dont on parle peu, pour partager, pour poser des mots qui peuvent aider les personnes et les couples avec ou sans enfants, et puis pour aider à cheminer avec cette épreuve, dans le sens de faire sortir les personnes d'une certaine solitude. La solitude de ne pas pouvoir fonder une famille. Et fonder une famille, c'est entrer dans une normalité. Et quand on ne rentre pas dans une normalité, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on chemine ? Et surtout, comment on réagit aux questions des personnes ? Et puis, il se trouve que je suis aumônier en EMS et que j'ai aussi constaté, avec aussi les années qui passent, les miennes, mais aussi avec ce que j'observe, que être mère ou pas mère, ça nous accompagne jusqu'au bout de la vie et que c'est jamais finalement quelque chose qui est résolu de façon définitive, que c'est un cheminement qui va jusqu'au bout. Voilà un petit peu le pourquoi du livre. Et puis bien sûr, c'est tabou parce que le fait d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, ça touche à la sexualité. Et la sexualité, malgré tout ce qui s'affiche, tout ce qui se lit, tout ce qui se montre sur les réseaux sociaux, ça reste profondément un tabou et un sujet délicat.
Corinne, je crois comprendre que ce livre, s'il n'est pas une biographie, est un peu votre histoire de maman que vous auriez aimé être.
C'est ça. J'ai l'habitude de dire c'est mon histoire, mais ça ne contient pas toute mon histoire, en fait. Et c'est un témoignage, mais comme dans tout témoignage, il y a des choses que pour X raisons, on ne dit pas ou on ne peut pas dire, parce que c'est l'histoire aussi d'un couple. Et bien sûr, étant jeune mariée, j'ai envisagé d'avoir des enfants et j'ose finalement avouer que le désir d'enfant n'était pas, quand je me suis mariée, quelque chose qui était très évident et qui, au fur et à mesure du temps, des années, m'a pris une intensité qui m'a un petit peu emportée dans un tourbillon. Et je parle de ça, en fait, de ces mois, de ces années où on est en couple et où l'entourage attend l'annonce d'une grossesse, où l'entourage va poser des questions qui vont être « Alors ce bébé, vous nous le faites pour quand ? Alors vous attendez quoi ?» Ces questions qui sont maladroites et auxquelles il faut faire face. Et puis il y a ces hauts et ces bas liés aux périodes d'ovulation, de règles, le désespoir des règles qui arrivent. Et j'ai voulu parler de ça parce que finalement, on en parle peu et que ça fait partie de ce désir d'enfant qui ne prend pas forme et peu à peu il faut intégrer en fait cette infécondité.
Est-ce que j'ose vous demander comment vous viviez le fait qu'on vous pose la question ? C'était certainement une grande souffrance et puis dire mais les gens, laissez-nous tranquilles, on sait ce qu'on a à faire.
Alors les questions c'est un grand sujet et finalement c'est peut-être aussi un des moteurs de l'écriture de ce livre. Récemment, j'ai eu le retour d'une personne qui est dans le milieu médical et qui a lu ce livre et qui m'a écrit ces lignes en me disant « Je demande pardon d'avoir moi-même posé cette question. Alors ce bébé, c'est pour quand ?» La question, elle est majoritairement posée à la femme. À l'homme, peut-être que dans les cercles masculins du sport ou de loisirs, peut-être qu'entre eux, ils plaisantent là-dessus, plus ou moins maladroitement, je peux aussi imaginer, mais ou lourdement. Mais en public, c'est quand même la femme qui est abordée au sujet de la grossesse, qui vient ou qui ne vient pas. Et j'ai assez vite compris qu'il fallait que je me trouve une formule. Mais j'ai mis du temps, en fait, à trouver une formule. Et d'abord, j'ai utilisé ce « pas encore ». Et puis, avec le temps, j'ai réalisé que le « pas encore » allait peut-être durer. Donc, il faut trouver une formule à soi avec laquelle on est à l'aise. Et puis, peut-être délicatement faire comprendre aux personnes que poser la question, c'est pas forcément l'idéal. J'ai apprécié les personnes qui ne disaient rien ou qui ne scrutaient pas mon ventre ou le fait que voilà, ouais, j'ai apprécié et j'aurais aimé leur dire en fait que c'était des personnes délicates.
Corinne, à la fin de votre chapitre 6 qui s'intitule Diversité et fécondité des larmes, vous citez cette phrase. Je crois à la douce puissance des larmes, je crois à leur pouvoir libérateur. Alors les larmes, c'est comme ça important ?
Les larmes, c'est aussi un grand thème que j'ai voulu aussi aborder dans ce livre. J'ose faire un petit inventaire à partir de mon expérience de la diversité et de la fécondité des larmes. Les larmes sont peut-être aussi un réveil, écrit Anne Lécu, car seuls les vivants pleurent. Et en fait, je crois vraiment, je suis une convaincue de la douce puissance des larmes, qui la puissance libératrice de ce que l'on exprime dans les larmes. Alors j'ai fait un inventaire, il vaut ce qu'il vaut, mais je parle des larmes de la désillusion, des larmes de l'incompréhension. Tout avait si bien commencé, et puis pourquoi notre histoire ne tourne pas rond ? Les larmes de la colère et de la révolte, les larmes de jalousie, quand dans cette situation, tout d'un coup, on me disait la bouche en cœur, « Sais-tu qui est enceinte ? parce que dans la période des 25-35 ans, c'est la grande annonce. Sais-tu qui est enceinte de 3 mois? Et puis là, j'avais des larmes de jalousie que je cachais et que je vivais plutôt après. Et puis, les larmes qui réclament des comptes à la vie aussi, et puis qui exigent ce que la vie devrait nous donner, ce que l'on pense qu'elle devrait nous donner. Et puis les larmes qui permettent de panser la blessure. Et je crois vraiment à cette douceur des larmes qui permet d'apaiser et qui sont une consolation. Je crois aussi vraiment, et je l'ai aussi appris dans mon éducation, j'avais un père qui savait pleurer et c'est un cadeau. Mes parents ne cachaient pas leurs émotions et j'ai aussi appris et j'ai vu que les larmes ouvrent un chemin à l'intérieur du cœur. Elles n'ont rien à voir avec un apitoiement sur soi. Et je fais fuir les personnes qui disent « Oh, ne pleurez pas, surtout ne dites jamais ça à quelqu'un ». Les larmes nous permettent un grand labeur intérieur. Et j'avais dit ça à une journaliste et elle a pris ça comme titre. Les larmes ont sauvé ma douceur. Et je crois qu'il y a vraiment là un secret. Je crois à la puissance, à la douce puissance des larmes.
On vient de le dire, c'est une souffrance, mais les couples, quand ils découvrent leur infertilité, est, mais aussi sera une réelle épreuve durant toute leur vie. Ils ne peuvent pas la traverser seuls. Il faut qu'ils soient aidés par des spécialistes ou des membres de la famille ou des amis, sinon ils s'en sortiront jamais.
Oui, c'est comme toute épreuve, je crois qu'on ne peut pas cheminer tout seul et qu'il faut, à un moment donné, s'ouvrir, oser poser des mots. Je dois reconnaître que ma biographie dans cet aspect-là étant compliquée, j'ai mis des années, en fait, avant de me livrer véritablement sur ce sujet. Et j'avoue aussi dans le livre que ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir parler de sexualité, de grossesse, qui arrive, qui n'arrive pas, avec des femmes qui étaient plus âgées que moi et qui, elles-mêmes, ont risqué des mots sur leur propre sexualité. Je leur suis reconnaissante et elles m'ont aidée, en fait, à sortir de moi. Je crois qu'il faut aller vers des personnes de confiance. Et Véronique Margron, je la cite, parle de ce tiers fiable, de ces personnes fiables qui peuvent accompagner les couples dans leurs étapes. Non, on s'en sort pas seul. Il faut trouver des moyens peut-être créatifs, la peinture, l'écriture, la marche, déjà pour sortir de soi-même et sortir ce sentiment d'échec, parce que finalement c'est un sentiment d'échec, échec par rapport à soi-même, par rapport à son couple, par rapport à ce que la famille attend que vous prouviez, que vous ameniez cette descendance que l'on veut apporter à la famille. Et c'est cette culpabilité sur laquelle il faut déjà travailler. Et non, on n'y arrive pas seul.
Est-ce que les questions viennent peut-être davantage des grands-parents que de vos propres parents? Parce que les grands-parents, ils savent qu'ils vont disparaître dans un laps de temps qui est peut-être compté, tandis que vos parents, ils ont encore de l'avenir. Quels sont ceux qui sont les plus pressés d'avoir un petit-fils ou une petite-fille?
Alors, dans mon cas, j'ai quand même eu des parents et des beaux-parents qui ont été discrets. J'ai perdu mes grands-parents paternels et maternels assez tôt, donc j'ai pas eu cette pression pour justement pouvoir annoncer des arrières, comme ils disent en EMS et comme ils savent bien les compter. Mes parents et mes beaux-parents sont restés discrets et délicats, ayant bien compris, et à un moment donné, nous l'avons dit, qu'il y avait une souffrance, une réelle souffrance. Non, les questions viennent plutôt de personnes finalement assez éloignées, de connaissances, d'amis parfois, proches ou moins proches. Mais dernièrement, dans un EMS, quelqu'un de l'équipe, en voyant le titre du livre, me disait mais j'en suis là. J'ai une trentaine d'années, je n'ai pas d'enfant. Et finalement, les personnes nous balancent des solutions sans connaître notre situation. Et ça, c'est la deuxième étape. En fait, les personnes, quand ils vous ont posé la question, ils vous proposent tout de suite une solution et sans savoir où vous en êtes, mais en ayant ce sentiment qu'il faut que vous rentriez vraiment dans une case et qu'il faut tout faire pour avoir des enfants. Or, peut-être que le couple n'est pas appelé à avoir des enfants.
Je pensais justement vous poser, non pas une question, mais vous donner une solution. Alors, je suis malvenue. Il y a les adoptions. Est-ce que c'est une solution ?
Ah, l'adoption, ça aussi, c'est une grande solution que les personnes ont suggérée. Alors l'adoption, en fait, elle est plus si facile. Actuellement, en Suisse, les adoptions se font rares parce que les pays qui proposaient des enfants pour l'adoption ont fermé leurs portes et les possibilités. Et actuellement, finalement, quand un couple se renseigne pour l'adoption, on lui propose plutôt de devenir une famille d'accueil. Ce qui est aussi une piste. Alors moi, je ne parlerai pas de solution. Et mon livre ne fait pas l'analyse du tout des solutions, des possibilités. Je ne suis pas à même de juger, mais je suis convaincue que dans l'épreuve qui est traversée, le couple doit dialoguer et trouver la solution, mais j'aime pas le mot de solution parce que...
L'épanouissement, on pourrait dire.
Trouver une piste.
Ou la piste,
une
oui,
piste
oui.
Qui, après, va entraîner une décision. Trouver la décision qui leur permet de concentrer leurs énergies physiques, psychiques, les moyens financiers aussi, et puis qui va peut-être les amener vers un épanouissement, mais encore que justement, peut-être vers un chemin qui sera aussi difficile. L'adoption, il y a des adoptions heureuses, il y a des adoptions difficiles, douloureuses, comme l'éducation des enfants de sa propre chair. Il y a des réussites et il y a des grandes souffrances, donc il ne faut pas rêver. Je crois que c'est ça qui est important. Aucune solution, aucune décision vers quelque chose n'est vraiment la source d'un bonheur parfait. Et c'est aussi un autre enjeu du livre. Je crois qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à se comparer et à idéaliser la situation des autres. Les mariés envient parfois la liberté des célibataires. Les célibataires vont envier l'affection, la tendresse, le fait de ne pas rentrer en étant seul chez soi. Les sans-enfants vont envier les familles avec tout ce qu'elles peuvent présenter de joie et de complicité. Et puis les familles... Et les parents, les jeunes parents, il faut les écouter dans leur nuit difficile, dans leur période de maladie où ils accompagnent leurs jeunes enfants et dans les galères aussi, par exemple, du postpartum, etc. Donc, je crois qu'il faut s'écouter les uns les autres et ne pas idéaliser nos situations respectives et les situations que l'on souhaiterait vivre.
Corinne, pour tout et pour rien, on crée une association, des groupes de parole et tout, etc., etc. Alors, forte de votre expérience, je veux dire personnelle, Avez-vous songé à apporter aux gens cette aide qui, sans cela, serait un manque ?
Alors, cette question m'étonne. Non, jamais. J'ai jamais pensé à une association. J'ai plutôt, par moment, dans des situations particulières de ma vie, pensé à moi-même rejoindre un groupe de parole. Mais j'ai jamais pensé en fonder un, ou fonder une association ou autre, un espace de parole, alors que je suis une grande convaincue de la puissance de la parole et de ce qu'il faut déposer. Peut-être parce que j'ai eu un parcours professionnel qui a entraîné beaucoup de déménagements entre la Suisse, la France, l'Angleterre. Donc, je ne pense pas que j'ai eu beaucoup le temps de réfléchir à cet aspect-là. Par contre, je suis justement une convaincue de l'échange, du dialogue, du partage, et de trouver justement des personnes de confiance avec qui on n'a pas besoin d'échanger de manière régulière, mais avec qui il y a un échange en toute confiance, en toute honnêteté, en toute vérité, et puis qu'on peut reprendre quand on se retrouve. Et bien sûr, ce cheminement, on le fait pas tout seul, on le fait aussi avec des spécialistes. Voilà, il y a le milieu médical qu'il faut aller consulter, et puis et parfois l'homme peut être plus réticent que la femme. Les femmes ont peut-être plus l'habitude d'aller de prendre un rendez-vous médical, mais le cheminement ne se fait pas tout seul. Il se fait par la parole, avec des amis, des gens de confiance, et avec aussi des spécialistes.
Corinne, le couple, est-ce qu'il peut résister à ce manque d'enfants ?
C'est une grande question, et en fait, j'aurais envie de la renverser, et je dirais, est-ce que le couple peut résister à la vie tout court ? Et le taux de divorce nous montre bien que la vie est devenue compliquée, et que nourrir le couple, préserver le couple, soigner la relation demande un effort, une discipline qui dépasse la routine, qui dépasse les horaires souvent insupportables des uns et des autres liés au travail. Et la question est la même, est-ce que le couple peut résister à la vie avec enfant ? Parce que, pareil, on peut aussi observer qu'il y a des couples qui sont focalisés sur leur vie de famille pendant les 10 premières années. Les enfants passent avant tout. Et puis, quand les enfants grandissent, et plus tard, quand les enfants quittent le nid, il y a ce déséquilibre relationnel au niveau du couple, où finalement, certains couples divorcent aussi, plus tard, en disant, mais finalement, tant qu'il y avait les enfants, ça allait, mais maintenant, on n'a plus rien à se dire. Donc, je crois que je suis convaincue que le couple, avec ou sans enfants, marié, non marié, peu importe, mais la relation, toute relation d'amour demande énormément de soins, de temps mis à part, et que le couple peut résister si on y travaille et si on dialogue, et on écoute le ressenti les uns des autres. Après, c'est sûr que une infécondité temporaire ou définitive peut très bien malmener et mettre fin à une relation d'amour, forcément.
Aujourd'hui, on travaille beaucoup on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je trouve personnellement qu'on a moins de temps pour dialoguer. Là aussi, ça fausse les relations entre le couple qui pourraient davantage partager, être présent et pas l'homme, par exemple, des fois il arrive, moi j'ai des confidences, il arrive, il enlève ses chaussures, il se met sur le canapé, qu'est-ce que t'as fait de la journée, puis ça s'arrête là. Comment on peut construire un couple comme ça, avec ou sans enfant?
C'est ça, pour moi la question, elle est vraiment au cœur de la relation. Être en couple et s'aimer, c'est du travail. J'avais l'habitude de dire ça à des personnes dans l'accompagnement qui étaient en couple, mais vraiment, il faut travailler à la relation, il faut préserver des petits déjeuners, des soirées, une fois par mois, où le couple se retrouve en vis-à-vis et où on pose le téléphone, justement, où on cesse toute activité et où on reste à l'écoute l'un de l'autre. Sinon, non, ça peut pas, ça ne vit pas, ça ne se nourrit pas.
Ça aussi, c'est un sujet de divorce, parce que tu ne m'écoutes pas, donc on va chercher quelqu'un d'autre qui vous écoute, puis au bout d'un moment, ça dérape. Jusqu'à l'irréparable.
Oui, et puis l'écoute, si on n'y veille pas, elle va de nouveau se transformer en indisponibilité, en disponibilité pour d'autres choses, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres activités.
Vous travaillez en EMS, vous me l'avez déjà dit au début, donc vous avez aussi des confidences.
Oui, un petit peu.
Vivre sans enfance, c'est une épreuve, mais vieillir sans enfant, c'est autre chose. Un des conjoints s'en est allé, la solitude s'installe, et c'est une épreuve qui doit se préparer, j'allais dire, des dizaines d'années avant qu'on en arrive à être séparé par la mort.
Oui, vieillir sans enfant, vieillir tout court, pareil, se prépare. Et puis vieillir sans enfant, c'est un deuil dans les deuils que la vie nous apporte, nous fait subir aussi. Une amie récemment qui avait lu une quinquame, qui avait lu mon livre, me disait, tu vois, je suis dans ce cas, j'ai dû faire le deuil d'être mère, et maintenant je dois faire le deuil de ne pas être grand-mère. Il y a ces réalités-là. Et puis, j'aurais envie de renverser de nouveau et de dire, dans les confidences que j'entends, eh bien, il y a des mères qui ont plusieurs enfants, et puis qui vivent des choses douloureuses avec leurs enfants qui ont 60 ou 70 ans, parce qu'en EMS, c'est quand même la grande vieillesse, et qui vivent des conflits, des choses douloureuses, des manques de dialogue. Donc là aussi, il ne faut pas idéaliser, il ne faut pas rêver. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont offert au monde, à la société, à leurs proches, une disponibilité avec laquelle elles ont construit autre chose et qui vivent des relations et qui... Voilà. Donc là encore, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on a forcément, et je le dis aussi, un investissement, un retour sur investissement ou une prolongation magnifique de soi-même. Il y a aussi toutes sortes de situations. Mais je crois que ce qui est important, c'est justement d'intégrer ces pertes. Ne pas avoir d'enfant, c'est une perte parmi les pertes. Et il faut entrer dans ce processus de deuil lié à chaque perte et apprendre à naître à soi-même, en fait, et à voir aussi les autres possibilités, les mille manières de donner et de nourrir la vie, et de trouver ces manières, ainsi, à la vieillesse, à l'heure des bilans, pourra dire, voilà, ma vie a été riche, autrement, mais elle a été riche.
Merci Corinne, et avec plaisir, nous nous retrouverons dimanche prochain, même lieu, même heure.
Radio Fribourg,
Coin de ciel.